Mobile. Bonjour, donc déjà, on fait savoir pour l'instant, le cours, ça sera là, jusqu'à nouvel ordre. Ouais. Ceux qui ont des contacts à la mairie, n'hésitez pas à aider la synagogue ici. Ils ont fermé le bureau en bas parce que c'était pas très réglo. Donc ils sont en train de vouloir obtenir un ichour. Donc celles qui peut-être connaissent des gens à la mairie pour faire un peu bouger les choses. Ouais. Bah, tu vois pas qu'on est là?
Ah, juste pour la petite salle du bar.
Ouais, juste pour la petite salle du bar. C'était pour faire cool, en plein truc, ouais.
Je sais pas si c'est l'orientation.
Je sais pas ce que c'est, mais bon, toujours est-il, on sait jamais. Mais si quelqu'un a des pistons, des fois à la mairie, moi je le dis comme ça, hein, on sait pas. Deuxièmement, ce que je voulais aussi vous faire savoir, ce qui est très important, c'est qu'à partir de mercredi prochain, Bezrat Hashem, vous avez un Bet Hora'a qui ouvre ici, juste en haut du Super Farm. C'est quoi un Bet Hora'a? C'est un endroit où vous pouvez venir poser toutes vos questions, si c'est en cacheroute, en nida, venir montrer vos tissus, les, tout ça, vos bicotes, dans ce que vous voulez. Et il y aura aussi ce qu'on appelle une ma'abada de chatnez. C'est quoi le chatnez? C'est un vêtement où il y a le lin et la laine, d'accord, et qu'on n'a pas le droit de porter, de mélanger. Donc, il y aura dans cet endroit-là, on pourra tout de suite détecter. C'est-à-dire, vous venez, vous déposez vos vêtements, d'accord? On vérifie ça et hop, on vous rend votre truc. Donc, on n'a pas le droit de porter justement le lin. Ça se vend énormément, sauf qu'ils ne te le disent pas. Non, non, non. Tu sais quoi? C'est une halakha. C'est comme ça. Et en général, Rachel, en général, non. Très souvent, on ne te le dit pas. C'est ça ce qu'il faut. C'est ça ce qu'il faut. C'est que très souvent, Bokerto, bah, ça me fait plaisir de te voir. Allez, viens t'asseoir. La laine et le lin. Très souvent, c'est vendu dans les costumes ou dans les manteaux, des choses comme ça. Ils ne te le marquent pas parce que le pourcentage de lin est tellement minimum et infime qu'ils ne le comptent pas. Mais pour nous, les Juifs, c'est très grave de porter ce genre de vêtements. Donc, sachez-le, à partir de mercredi prochain, c'est le Rav Partouche qui ouvre juste en haut du Super Farm. Il ouvre son Bet Hora'a. On vous enverra sur les pages, si Dieu veut, les contacts et tout ça. Mais je pense que c'est bien, c'est une bonne idée. Et Bezrat Hashem, j'espère que voilà, tout le monde utilisera ce Bet Hora'a. Bon, ça c'était pour les petites annonces. On est Shavuot dans quelques jours. Et là, j'ai envie que chacune, elle prenne tous ses problèmes, toutes ses histoires, toute sa vie, d'accord, avec tous les problèmes qu'on a, tout son dymion, c'est-à-dire toute son imagination, on laisse tout à l'extérieur parce que dans quelques jours, on va sortir de cet état humain et on va devenir plus haut que des anges, puisqu'on va recevoir la Torah. C'est pas rien, d'accord. Et ça, il faut y croire. Alors, j'imagine déjà, certaines, elles vont dire, mais bon... Ça, c'est pour les gens qui sont très religieux, pour les gens qui font la Torah, qui font les mitzvot. Moi, avec ma mini-jupe, mon pantalon, je fais pas Shabbat, appelle ce que tu veux, toutes tes histoires, d'accord? Tout ton package. Tu te dis, moi, ça ne va pas vraiment me concerner parce que je ne suis pas dedans. C'est pas vrai. Toi aussi, si Dieu veut, tu vas recevoir la Torah à Shavuot. Tout le monde va recevoir la Torah et sans même que tu t'en aperçois, d'accord, ta neshama, elle est en attente. Tu sais ce qui va se passer et elle est en attente. Okay, donc, essayez véritablement de vous dire, je ne vais pas frapper par le Yetzer Hara qui très souvent veut toujours te ramener à un niveau très bas, même inférieur de ce que tu es, d'accord, à chaque instant, il te rappelle tes points sensibles. Tu as fait telle chose, tu n'es pas comme ça, machin. Laisse tomber. Tu es une volonté divine, de toutes les façons. Tout ce que tu as pu faire. Et on le voit comment? Même l'histoire de la Megillat Ruth. Vous savez ce que c'est la Megillat Ruth? Enlève tes lunettes, s'il te plaît. Ça me dérange, Rebecca. Hein? Oui, celle qui est convertie. Ruth, c'est pas grave. Moi, je te vois. Donc, la Megillat Ruth, c'est la Megillah qu'on lit à Shavuot. C'est l'histoire de Ruth la Moabite. Ruth qui s'est convertie. Et on va essayer de parler un petit peu de Ruth parce que, Bémet, qu'à travers cette Megillah, on apprend énormément de choses. D'abord, on apprend comment ça s'est passé. c'est qu'il y avait à l'époque un homme qui s'appelait Elimelech. Alors, Elimelech, d'accord, c'était le blindé de la ville. Tu vas dire, voilà, Ranana, tu prends le blindé de Ranana, c'était Elimelech. D'accord ? Le type, il était comme ça. Et il avait une femme qui s'appelait Naomi. Naomi, d'accord, qui était Bémet, lui, il était un tzadik. Elimelech, c'était un homme bien qui fait étudier la Torah, tout ce que tu veux. En plus qu'il étudiait la Torah, Hachem, il lui a donné une super bracha. Il lui a dit, toi, tu vas être. Salut, comment tu vas ? Il lui a dit, toi, tu vas être blindé et ton travail, ça va être quoi ? D'aider les pauvres. C'était son long truc, d'accord ? Et Naomi, sa femme, du mot Neima. Naomi, du mot Neima, ça veut dire agréable. Qu'est-ce qu'elle faisait, Naomi ? Bémet, qu'elle passait son temps à rechercher les gens qui n'avaient pas, comment elle peut faire, et elle aidait les gens comme ça qui avaient des soucis, des pauvretés, elle organisait des paniers, des machins, et elle aidait les pauvres. Et ils avaient deux fils, Naomi et Elimelech. Leur fils, c'était Kahlon et Kilion. Et à un moment donné, donc je vous situe hein, pour que vous sachiez un peu l'histoire, c'était donc à l'époque où, maintenant on passe à l'époque des juges, ça veut dire Yehoshua ben Nun, qui avait fait rentrer le Ham Israël en Israël, il meurt, il disparaît. Et donc maintenant, on va rentrer dans l'époque des juges. Et là, c'est une période très instable. Et donc Elimelech, il s'est dit, il a commencé à voir, il a vu quoi ? Il s'est dit, regarde, là, déjà comme ça, j'ai tous les pauvres de la ville qui viennent tous les matins me taper à la porte, s'il te plaît, donne-nous. Bon, c'est sympa, mais à un moment, ça va commencer à me saouler. D'accord ? Pourquoi ? Parce que maintenant qu'on rentre dans une période qui est instable, c'est sûr qu'il va y en avoir plein des pauvres. Donc il a dit à sa femme Naomi, il lui a dit, écoute, tu sais ce qu'on va faire ? On va partir. On va partir, on va quitter Israël, d'accord ? Et on va partir dans on va partir dans un pays où voilà, on va être incognito. Comme ça, on peut vivre notre petite vie pépère. Alors, c'est sûr que nous, on pourrait se dire, oh là là, ça se fait pas, machin. Mais en vrai, c'est ce qui se passe véritablement à chaque fois, d'accord ? Dans le sens où, très souvent, chacun, il a son épreuve, déjà. Ça veut dire que même le riche, il a son épreuve. Même quand tu as de l'argent, d'accord ? Tu as cette épreuve. Donc, au début, tu donnes, mais tu sais quoi ? Jusqu'à un certain niveau, une certaine limite. C'est-à-dire, à un moment donné, il ne faut pas que ça te saoule. À un moment donné, il ne faut pas qu'on vienne te voir. Tu vois, tous les jours, tu dis, attends, c'est bon, va bosser, va machin. Mais qui tu es, toi, pour parler ? Dieu, il t'a donné une bracha. Ferme-la, donne. Parce que si elle se trouve, toute ta bracha, elle vient que de là. T'en sais rien, d'accord ? Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Elimelech ? Il s'est dit, moi, j'en ai marre de tous ces pauvres. Moi, je vais abandonner. Donc, Bémet, Kakadosh, Baruch Hu. Quand ils sont arrivés en Moavie, la première chose qu'il a fait, d'accord ? Jusqu'à présent, Kakadosh, Baruch Hu, il était magnanime, tout ça. Mais Kakadosh, Baruch Hu, il a dit, toi, t'es parti. T'as pas eu peur de quitter Eretz Israël, Eretz HaKodesh, pour de l'argent. D'accord ? Pour te, et que tu as laissé ton peuple en détresse. Imagine-toi, d'accord, que c'était lui le riche. Hein ? Tout le monde comptait sur lui. Tu t'imagines, tout Ranana, il comptait sur un, Elimelech. Le type, il se dit un matin, je m'en vais. Mais quoi ? Tu fais quoi, tous ces gens ? Ils ont besoin de toi ? Tu vas me dire, ouais, mais attends, combien ? Bah oui, Dieu, qu'est-ce qu'il y a ? C'est rien pour Hachem de nourrir toute une ville. Il nourrit le monde entier, il fait tout Hachem. Donc, à Kadosh Baruch Hu, ils sont arrivés déjà, hop, Elimelech, c'est fini, tu meurs. Donc, Elimelech, il part de ce monde et elle se retrouve, Naomi, avec ses fils. À ce moment-là, Naomi Bémet, elle s'est dit, bon, qu'est-ce que je fais moi ici ? Je vais partir, je ne reste pas ici. Parce que Naomi Bémet, elle voulait pas quitter Eretz Israël, mais elle a suivi son mari. Elle a suivi son mari, alors... Je vais vous dire, Boker Tov. Tu savais que c'était en haut, hein ?
Oui, j'avais vu.
D'accord, super. Tu as bien fait ton job, ce coup. Donc, tiens, il y a une place. Et donc, Naomi, je n'ai pas compris, chacun, tu dis, viens, il y a une place. Moi, on sort de l'autre côté. Qu'est-ce que tu as ?
Moi, j'ai besoin de te voir, sinon je suis pas.
Donc, Naomi.
C'est l'anniversaire de Naomi aujourd'hui.
Ta fille, Mazal Tov, c'est beau. Elle part d'Israël, pourquoi ? Ah, c'est pour le Zivoug. Non, elle part pour le Zivoug, mais elle va revenir.
Oui, elle va revenir.
Tu dois lui dire à ta fille, tu dois revenir, attention.
Mazal Tov.
Si Dieu veut, jusqu'à 120 ans. Elle part aujourd'hui ?
Non, elle part pas aujourd'hui.
Elle va se marier.
Non, elle va se marier.
Attends, peut-être d'ici là, les choses, elles bougent et puis elle part pour le Zivoug. C'est pas pareil. Donc, Naomi, d'accord, elle dit, elle avait suivi son mari et ça, c'est un point important. Les filles, c'est un point important. Pourquoi ? Parce que très souvent, on a toujours cette sensation que, et Bémet, que oui, c'est vrai, son mari, il a fait n'importe quoi pour le coup. Qu'est-ce que tu parles d'Israël, qu'est-ce que tu fais? Et Naomi, elle aurait pu lui dire non et comment, machin. Elle a suivi son mari. Elle a gardé sa place. Hein? Elle a gardé sa place. Regarde l'importance. Tu vois ton mari faire n'importe quoi. Si Bémet, tu te tais, les ma ana shalom, ça veut dire les shem shamaim, tu verras la bracha.
Même si tu sais.
Si B. Jennifer, même. Regarde.
Ça lui a coûté la vie de son mari.
Attends.
Mais même si c'est de la merde.
Écoutes-moi.
Le jour où ils se rendront compte que c'est de la merde,
il est mort pour le coup.
Il est mort, mais de toutes les façons. Mais les copines, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Prenez, venez, on sort de notre esprit terre à terre. Parce que là, dans.
Elle a lutté avant.
Mais parce qu'on s'en fout, parce qu'il y a une suite, c'est comme vous, vos histoires dans votre vie, chacune son histoire dans sa vie, d'accord? Mais vous croyez quoi? C'est comme ça, c'est par hasard? Bien, parce qu'il y a une suite dans les événements, parce que tout ça, c'est pour nous emmener à Machiach. Tu vois, ben, il y a une fin à tout, tu comprends? Maintenant, il fallait qu'on ne passe par là, vous allez voir pourquoi, tout de suite, vous allez me dire, vous savez quoi, c'est un film. Dans un moment, vous allez me dire, ah ouais, heureusement qu'elle a suivi son mari en fin de compte. Donc, il meurt. D'accord? Elle se retrouve. Oui, ils sont à l'extérieur d'Israël. Elle se retrouve.
Et pourquoi là-bas? Et d'abord, c'est où dans le monde?
À mon avis, c'est pas loin. Enfin, c'est pas si loin que d'ici, puisque les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont passés en Moab, à Moab. Et d'ailleurs, il y a une halakha qui dit, bon, aujourd'hui, on ne sait plus qui c'est, hein, donc ce n'est pas la peine d'aller dire qui c'est avec qui on ne se marie pas. Il y a une halakha qui dit qu'on ne se mariera pas avec le Moavi.
Juif Moavi ?
Il n'y a pas de juif. On ne se mariera pas avec le Moavi. À l'époque, on ne se mariait pas avec eux. Pourquoi ? Parce que quand on est sorti d'Égypte, on est passé par leur terrain et ils ne nous ont pas donné ni du pain ni de l'eau. Ils nous ont laissé crever.
C'est des barres, les Moabites.
Voilà. Et donc, va savoir si c'est pas des Perses. Et donc, Jennifer, et donc, qu'est-ce qu'il est dit? Donc, la Torah, elle nous enjoint, elle nous dit, attention de se marier avec des gens-là, de ces gens-là. Pourquoi? Parce que Bémet, ils sont durs. Ils n'ont pas eu le cœur. Alors que les femmes Moabites, on a le droit. Pourquoi?
C'est quoi? C'est où?
Avant Shavuot, c'était à la sortie d'Égypte.
Non, l'histoire de.
Oui, c'est après. Tout c'est puisqu'on te dit que l'époque, c'était quoi? T'es venu après. Je t'ai dit, l'époque, c'est après la disparition de Yehoshua Ben Nun, qui a fait rentrer le peuple, justement, en terre d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, tu vois. Donc, on est dans une période un peu trouble. C'est pour ça qu'il dit, Meller, il est parti, parce qu'il a senti que tout le monde allait venir lui taper à la porte tous les matins. Zdoké, zdoké. Donc, d'accord. Donc là, pourquoi c'est important de dire cette halakha? Parce qu'on ne se marie pas avec un Moavi, mais on se marie avec une Moavite. Pourquoi? Parce que les femmes de l'époque, on dit que la pureté, la grandeur d'une femme, c'est d'être dans sa maison. Donc les femmes, elles ne sortaient pas, elles n'avaient pas pour coutume de toutes les façons de sortir pour donner à boire et à manger aux passants, puisqu'elles ne sortaient pas. D'accord? Donc c'est les hommes, c'est sur les hommes que le din il a été prononcé. Alors, donc tout de suite maintenant on va comprendre pourquoi ça s'est bien passé, tout est pour le bien et que tout ça c'était voulu par Hachem. Donc à Kadosh, quand le mari de Naomi il est mort, elle a dit à ses fils, bon les enfants, on va rentrer, ça sert à rien de rester ici, regardez, on n'a rien, on n'a pas de famille, on a perdu plein, l'argent on a perdu, on a perdu bien sûr, qu'est-ce que tu croyais, ils ont perdu plein, tu comprends? Donc elle a dit, qu'est-ce qu'on fait? Ses fils, qu'est-ce qu'ils lui ont dit?
Le mari, il est mort, mais
bah oui,
il y a peut-être l'argent.
Ah.
Non, elle a perdu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a... Ses fils, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Bien évidemment, parce que souvent, on dit, on part en Houtz Laretz pour un petit temps. Mais tu sais ce que c'est, Houtz Laretz? Ça t'aspire. Ça te dit, attends, t'as un bon niveau de vie. Attends, les Français, il y a les allocs, il y a la sécu, il y a ceci, il y a les aides. Parce que tu vois, chacun, il a son truc, tu comprends? Donc, les fils, qu'est-ce qu'ils ont dit à leur mère? Attends, maman, on ne va pas partir d'ici comme ça, deux secondes, on est en train de se faire, on est en train de se truquer, machin. Non, Et la mère, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Elle garde ses fils, elle va les laisser, elle dit qu'est-ce qui va se passer? Et donc est arrivé ce qui est arrivé, les fils, ils se sont mariés avec des Moaviot, Orpa et Ruth. D'accord? Ils se sont mariés avec Orpa et Ruth. Maintenant Orpa et Ruth, c'était des mots. On n'a pas reçu la Torah encore, Jennifer. C'est, non, l'histoire, c'est juste avant Shavuot, d'accord? On n'a pas encore reçu Matan Torah, ok? Donc, c'est des gens, on se mariait, mais on sait qu'on va pas se marier avec les hommes de ce pays, d'accord? Après, attends. Oui, elle n'est pas juive pour l'instant. Donc, il n'y a pas, pour l'instant, on ne se marie pas comme ça. Donc, elle... Ils prennent deux Moaviot. Maintenant, ils ne prennent pas des clochards, bien évidemment, parce qu'eux-mêmes, ce n'est pas des clochards quand même. Donc, ils prennent des filles de princes. Donc, c'est des filles qui ont une certaine vie. Elles sont habituées, tu vois, aux fastes et compagnie. Mais elles avaient, il y a marqué quand même, qu'elles avaient, Baruch HaShem, des bonnes qualités morales. D'accord ? Parce que les Moavim, ce peuple-là, ils sont habitués à la débauche, à la luxure. Elles avaient quand même, tu vois, des qualités en elles. Et donc, elles se sont mariées avec les deux fils. Maintenant, au bout de 10 ans, que Hachem, il leur a envoyé plein de simanim, parce que tu sais, Hachem, ne crois pas, quand tu fais des erreurs dans ta vie, il t'envoie plein de simanim. Et toi, et moi, et nous tous, non. On veut se rester dans notre truc, on dit non, tu sais quoi, je pousse encore un peu. Qu'est-ce que t'attends? T'attends quoi, de te recevoir la claque de ta vie pour comprendre? Eh ben oui. Ça, c'est la nature humaine. Regarde, ils ont perdu leurs ânes, leurs chevaux, leurs machins, leurs trucs. On reste jusqu'à qu'à un moment, Kadosh Baruch Hu, il a dit, bon, je sais quoi, tu comprends rien, qu'est-ce que je te dis? 10 ans, ils sont restés comme ça, mariés avec Orpa et Ruth. Ils sont morts. Donc là, Naomi, elle a perdu son mari, ses fils. Ils sont morts, c'est comme ça. Ça fait partie de l'histoire. C'est le scénario. Attends. Et c'était une malédiction. C'est une malédiction. De perdre son enfant, c'est une malédiction que Dieu préserve. Donc, ils sont morts. Et pas seulement qu'ils sont morts. Ils n'ont pas eu d'enfant. Il n'y a pas de descendance. Donc, on se retrouve. Naomi, elle a perdu son mari. L'argent. Elle se retrouve une pauvresse. Et ses fils. Elle se retrouve, attends, elle se retrouve avec ses deux belles-filles, Orpa et Ruth, et donc ils sont assis pendant les 7 jours de Shiva. Et là, Ruth, elle comprend. Naomi, elle comprend, elle se dit, attends, ça y est, Atkan, je ne veux plus, je finis mon deuil, je prends la route, tout de suite je m'en vais, je rentre en Eretz Israël. D'accord? Donc, le matin, elle se lève de son deuil et elle dit, ça y est, je m'en vais. En partant, ces deux belles filles, elles voient qu'elle s'en va. Elle lui dit, mais on ne te lâche pas, nous. On vient avec toi. Elle leur dit, non, ne venez pas avec moi. Parce que avec moi, c'est que le malheur. Regardez, vous êtes mariés avec mes filles. Vous n'avez pas eu d'enfants. Je n'ai pas d'argent. Je vais revenir dans mon pays. Je vais être montrée du doigt. Vous allez avoir que des galères. Elles disent, non, on vient avec toi. On vient avec toi. Elles avancent. Et maintenant, Naomi, elle se dit, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire, moi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça veut dire, je suis en train d'emmener avec moi des Moaviot en Eretz Israël. Mais on ne veut pas de ces gens-là dans notre pays. Qu'est-ce que je fais, moi, de tout ça? Je ne peux pas faire ça. Alors, arrivée à un moment du chemin, elle leur dit, écoutez, mes filles, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Vous étiez chez vous. Vous avez tout chez vos parents. Vous avez les châteaux, les fastes, le machin, les femmes de ménage, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous faites avec moi? Qu'est-ce que je vais vous apporter? Et là, quand elle a commencé à leur faire sentir que bon, c'était compliqué, Orpa, elle a versé 4 larmes et elle a embrassé sa belle-mère. Elle lui a dit d'accord. On dit que des 4 larmes, écoutez bien maintenant, ça devient intéressant, des 4 larmes qui sont sorties de Orpa, d'accord, elle a eu 4 fils qui étaient des Giborim, qui étaient des hommes forts. Un de ses fils, c'était qui? Goliath. Orpa, vous inversez le nom, c'est qui? C'est Paro. Orpa, c'était un Gilgoul de Pharaon. Écoutez bien maintenant ce Inyan. Quand elle est partie, Orpa, en réalité, nous, à ce moment-là, le Ham Israël, d'accord, le Bnei Israël, ça y est, Paro, donc Orpa qui était un Gilgoul, d'accord, une réincarnation de Pharaon, Orpa, quand elle est partie, en réalité, à ce moment-là, Pharaon, il s'est complètement détaché de nous. Parce que jusqu'à présent, Pharaon, avec toutes les clipotes que ça représentait, il nous collait à la peau, il ne voulait pas nous lâcher. À ce moment-là, Boker Tov, à ce moment-là, si tu veux, il y a une chaise que tu peux mettre là-bas. Ah ben, même pas, je ne sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire, bon. Estelle, heureusement que tu es là, parce que sinon je me serais dit, il y a un problème. Tu as une place, oui. Donc, Orpa, les copines. Donc, elle a, Orpa, quand elle est sortie, elle est partie de chez sa belle-mère, il y a marqué, elle est revenue, d'accord, à ses mauvaises mœurs.
Orpa, tu as dit qu'elle avait des
bonnes... Elle avait des bonnes qualités, qu'elle a pu développer, Jennifer, qu'elle a pu développer par rapport à ses fréquentations. De là, les filles, vous devez comprendre une chose. Faites attention à vos fréquentations. Parce que quand tu fréquentes quelqu'un, d'accord, qui a des mauvaises mœurs et qui n'a pas de moralité, que tu veuilles ou pas, bah, ça déteint sur toi. Tu comprends ? C'est-à-dire, la fille, elle va te raconter sa vie qui est anormale et elle va te la faire passer pour normale. Tu comprends ce que je veux dire ? Par contre, quand tu fréquentes des gens, okay, qui ont de la Yirat Shamayim, qui ont des bonnes morales, qui ont des bonnes mœurs, ben, doucement, tu vas t'attacher à ça. De là, on voit Bémet, regardez ce qui s'est passé. C'est pour ça que je vous dis, attention à nos fréquentations, nous, nos enfants, tout notre entourage. Quand Orpa, d'accord, elle est partie, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle est partie et elle s'est fait attraper par 100 hommes et un chien. Et elle a été avec eux.
Avec 100 hommes et un chien. Mais pourquoi tu précises un chien ?
Parce qu'il y avait un chien, c'est marqué dans la Megillat Ruth.
C'est pas le chien, j'ai pas entendu.
Elle a été. Elle a été avec 100 hommes et un chien. Quand elle a quitté sa belle-mère, qui était une tzadika, qui était une femme vertueuse, tu vois ? Elle est retournée dans la débauche. 100 hommes et un chien, tu entends ? Sans hommes, ça veut dire. Ah, pas d'homme et un chien. Je t'aurais dit, elle a été avec un chien. Je t'aurais pas dit, elle a été avec 100 hommes. Bon, avancez un petit peu, les copines. Avancez un tout petit peu. Donc, elle est partie comme ça. Et donc, Bémet, qu'il y a marqué qu'elle a été volontairement. En plus. Pour te montrer, d'accord ? Pour te montrer, Béhémet, que... Non, mais pour te montrer, justement, d'accord, c'est cette vulgarité, toutes ces mauvaises midotes, ça veut dire qu'on a toujours en nous des bonnes midotes et des mauvaises midotes. Ne la critiquez pas, hein, parce que vous ne savez pas vous serez.
Elle n'était pas convertie encore.
Elle n'était pas convertie, mais même, on ne veut pas la critiquer parce qu'on ne sait pas, d'accord ? On ne sait pas, nous, de quoi on est capable. Qu'est-ce qui a marqué de repas ? Parce que qu'est-ce qui a marqué ? Qu'est-ce qui a marqué ? Ne crois pas dans les Perkei Avot. Il y a marqué dans les Perkei Avot, ne crois pas en toi jusqu'à ton dernier jour. Rebecca, il y a marqué dans les Perkei Avot, ne crois pas en toi jusqu'à ton dernier jour. T'en sais rien. Tu sais pas ce que tu aurais fait. D'accord ? Donc, tu te dis, tu entends ce qui a marqué et tu tires la leçon de cette histoire. C'est quoi la leçon ici ? C'est que on doit faire attention à nos fréquentations. Parce que oui, à partir du moment où je vis dans un environnement, d'accord, où il y a de la débauche, il y a de l'immoralité, et à partir du moment où j'évolue avec des gens comme ça, bah tu sais quoi, ça va faire son chemin. Peut-être pas tout de suite. Parce qu'au début, tu vas dire, mais non, mais comment, mais je comprends pas. Mais elle m'a la sainte. On est des êtres humains. Elle m'a la sainte. D'accord ? Donc, ne fais pas style toi la tzadika du d'or, genre tu comprends même pas comment c'est possible, ouais. D'accord ? Va c'est, savoir.
C'était normal, c'était pas la pire.
Non, c'était pas normal, la Torah, si elle te le précise, oui, c'est que c'était pas la normalité. Je ne pense pas que c'était la normalité, sinon, on ne sait pas, volontairement, on n'en sait rien, d'accord ? On ne sait pas pourquoi, comment, en tout cas, à partir du moment où la Torah, d'accord, les Mefarshim et tout ça, ils nous le précisent, c'est que ce n'était pas dans la normalité, sinon ça serait passé comme une lettre à la poste. Donc, toujours est-il que Orpa, d'accord, elle est partie, mais quand même, elle a eu son mérite, d'accord, un de ses quatre fils qui était des géants et tout ça, c'était Goliath. Que pour, d'accord, c'était quelque chose de grand pour elle. Elle a eu quatre. Après, avec les hommes, il faut bien.
Le sang et le chien.
Oui.
Elle a eu quatre enfants.
Dont Goliath.
Dont Goliath.
Elle n'était pas juive,
Goliath. Non.
Non, il s'est marié avec. Il s'est battu avec.
De ces quatre larmes qu'elle a eues, c'était. Elle a eu ce mérite.
Non.
De ces quatre larmes, il y a marqué. De là, tu vois quoi? Que ces quatre larmes qu'elle a versées, elle a eu le mérite d'avoir quatre fils qui étaient des Giborim. Des Giborim. Bon, venez, on avance. Attends. Ah, les pères? Non, ils ne sont pas mentionnés. Mais bon, maintenant, tu sais, c'est difficile. Avec 100, va savoir. Bon, c'est sûr que ce n'est pas le chien. Leicester. Bon, les copines. Donc, elle est partie comme ça. On avance avec Ruth. Et Naomi, et donc là, Naomi, elle dit à Ruth, elle lui dit, regarde, regarde ta sœur, elle est partie, d'accord, ta belle-sœur, elle est partie, pars toi aussi, tu vas rien gagner avec moi. Et là, Ruth, elle a fait, Naomi, elle a fait comme on fait avec des gens qui veulent se convertir. À chaque fois, elle lui montre, tu vois, un petit truc. Elle lui dit, mais tu sais, chez nous, il y a les mitzvot comme ça, Boker Tov. Chez nous, il y a des mitzvot comme ça. Elle lui dit non, là où tu iras, j'irai. Chez nous, il y a, si on ne fait pas tel commandement, on meurt. Elle a dit là où tu mourras, je mourrai. Chaque fois, elle lui disait, d'accord, tout ce que Naomi, elle essayait de la dissuader, de la repousser. Ruth, elle était là, non, je ne lâche pas, j'irai, je vais. À un moment donné, quand Bémet, elle lui a sorti tous les trucs et l'autre, elle ne bouge pas, elle a dit bon, d'accord, alors tu sais quoi, tu vas venir avec moi. Et donc, c'est comme ça qu'elles se sont arrivées en Eretz Israël, d'accord? Ruth et Naomi, elles sont arrivées, vraiment, elles étaient tellement pauvres, qu'elles n'avaient même pas de chaussures. Elles marchaient pieds nus, c'était vraiment terrible. Quand elles sont arrivées, ce jour-là, où elles sont rentrées en Eretz Israël, c'est le jour où Boaz, qui était un des juges, il a perdu sa femme. D'accord ? Donc Boaz, il a perdu sa femme. Ce jour-là, donc, tout le monde était occupé à enterrer la femme de Boaz, qui était une tzaddika. Et malgré tout, quand elles sont revenues, elles, on les a vues, on a dit, quoi, ça, c'est Naomi qui rentre ? Naomi qui était belle, qui était toujours habillée de folie, machin, comme ça, elle est devenue. Tout le monde, comme elle avait une bonne réputation malgré tout, tout le monde il a été là pour lui donner ce qu'il fallait, tout ça, on l'a aidé comme on pouvait. Donc, elles se sont retrouvées. Donc elles se sont retrouvées les deux, chacun il leur a donné quelque chose et c'était bidouk la période, d'accord, des moissons. Donc Ruth, personne parce qu'elle était avec Naomi. Là aussi, apprenez une chose, quand tu t'attaches à quelqu'un de grand et qui a une réputation, une bonne réputation, quelque part tu vas profiter de sa réputation. Quand tu t'attaches à quelqu'un qui a un Shem Tov, et c'est pour ça que c'est très important, le Shem Tov, il y a marqué Shem Tov, Yoter Tov, Mishemen Tov, Mishemen. Le bon nom, la bonne renommée, c'est meilleur que même la meilleure huile qu'il puisse y avoir, parce que ta bonne renommée, c'est ce qui va te suivre. Et quand tu as toi, une bonne renommée, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si toi, tu fréquentes quelqu'un de bien, obligatoirement, on va penser que tu es une bonne personne. Donc, Ruth, d'accord, elle est rentrée comme ça avec sa belle-mère. Maintenant, la belle-mère, Naomi, elle lui a dit à un moment donné, elle lui a dit, regarde, c'est la période des moissons, va chercher un endroit, va essayer de te trouver un endroit. Alors là, Ruth, elle lui a dit, écoute, moi, je ne vais pas t'abandonner. Ruth, maintenant, pour vous sachiez, à ce moment-là, elle a 40 ans. 40 ans, tu es encore bien. Tu peux peut-être encore amener un enfant dans ce monde. Tu as une chance de refaire ta vie quand même. Ruth, elle n'est pas là-dedans du tout. Ça donne l'espoir. Tu vois ?
Mais 40 ans à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui.
Non, mais c'est pas la question. C'est-à-dire, elle a pas. Rappelle-toi qu'elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant. Et elle a quoi ? Elle a sa belle-mère. Attends, elle a sa belle-mère que, bon, entre guillemets, tu pourrais dire, c'est un boulet. Elle est vieille, elle n'a rien, qu'est-ce qu'elle t'apporte ? Il va falloir maintenant qu'elle s'occupe de sa belle-mère. Et Ruth Bémet, elle n'a pas lâché sa belle-mère. Elle a dit, moi, je reste avec toi. Je vais aller, d'accord ? je vais chercher un champ. Et elle dit, je vais qu'Hachem, il va me diriger vers un endroit où je vais pouvoir ramasser, d'accord, des épis et pouvoir nous les ramener. Qu'Hachem m'emmène dans un endroit où je vais trouver grâce auprès du propriétaire du champ. Alors Naomi, elle lui dit, d'accord, pars. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait que Ruth, elle s'est retrouvée dans le champ de Boaz. Boaz, donc on a dit que c'était un des juges, il a perdu sa femme. Il se trouve que Boaz, c'était un cousin à Elimelech, le mari de Naomi qui est mort, et un cousin aussi de Ruth, de Naomi. Donc c'était en famille. Maintenant, quand elle a été, Ruth, dans le champ, elle a commencé donc à glaner, d'accord ? Et les yeux de Boaz, ils se sont arrêtés sur Ruth. Et il a demandé, qui c'est ? Il a demandé à un de ses ouvriers, il a dit, qui c'est cette femme ? Maintenant, quand même que vous compreniez, Boaz, il représente le tzaddik. À l'époque, Boaz, il représentait le tzaddik, d'accord ? Alors, il lui dit, qui est cette femme ? Maintenant, il vient de perdre sa femme.
C'est rapide quand même, non ?
C'est comme ça, parce qu'un homme, il ne peut pas rester seul. Mais lui, maintenant, il n'avait pas encore dans sa tête tout ça. Attends, vous, déjà, vous êtes au milieu. Attendez.
Bien sûr qu'il avait ça dans la tête.
De toutes les façons. Attends, de toutes les façons, c'est Alpi Alaha. Il a marqué, un homme, il n'a pas encore enterré sa femme. Il va l'enterrer là, maintenant, cet après-midi. Tu as le droit de venir lui proposer un chidour. Parce que dans la Torah, il y a marqué, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Non, la femme, elle peut rester seule. Mais l'homme, il ne la peut pas. La femme, au bout de 3 mois, de peur qu'elle puisse tomber enceinte, elle soit enceinte de son mari. Ah oui.
C'est rapide.
Oui, mais... Ah oui, bien sûr.
Même une heure, il n'a pas le droit de rester seule, il ne peut pas attendre de l'enterrer.
Attends, il va l'enterrer et il se marie. D'accord ? Donc, non, mais pour vous dire... Non, mais pour vous dire, c'est-à-dire, il fait ses shiva, il a le droit de se marier à Alpialara. Bon, maintenant, après, nous, on n'est peut-être pas au niveau, mais si vous regardez bien, c'est pour ça que Bémet, les tzadikim, en général, ils ne restent pas sans femme ou quoi. Pourquoi ? Même Rabbeinu, quand il a perdu sa femme, d'accord ? En réalité, il n'avait pas besoin, lui. Mais pourquoi il a dit, je vais reprendre une femme ? Parce qu'il a dit, je ne veux pas être un homme pas bon. Parce que dans la Torah, il y a marqué, il n'est pas bon qu'un homme reste seul.
Tandis que la femme, si elle perd son mari, il faut qu'elle...
La femme, si elle perd son mari, elle doit attendre 3 mois. Pourquoi 3 mois ? Parce que peut-être qu'elle est tombée enceinte la veille. Tu comprends ? Donc, savoir si l'enfant est de cet homme ou pas. 3 mois, c'est le moment, c'est le délai où tu dis une femme, elle est bémette enceinte. Tant que la femme, elle n'a pas fini ses 3 mois, elle n'est pas considérée, selon la halakha, comme étant véritablement enceinte. D'accord ? Non, la femme, elle n'a pas l'obligation. Alors que l'homme, il a une obligation bémette de refaire sa vie. D'accord ? Parce qu'un homme, il ne peut pas rester sans femme. Bon. Donc, Boaz, qui est représenté comme un tzaddik, je te donne des notions. C'est comme si maintenant, je ne sais pas, moi, tu dis, un grand tzaddik, il regarde une fille, il dit à son employé, il dit, c'est qui celle-là ? C'est normal, ça ? Ça te paraît normal ? C'est bizarre, quand même. Oui, mais est-ce que c'est des chemins de mater une femme ?
Mais Tinder, elle sans perdre une femme, il y a les 3 gars.
Oui. Écoute, mais on te parle du tzaddik. La Torah, elle vient, elle te pose quand même la question. Elle te dit, attends, ça te paraît pas bizarre qu'un tzaddik, il opère comme ça ? Alors justement, la Torah, elle vient et elle te dit, en réalité, qu'est-ce qui a fait que Boaz, il a remarqué Ruth ? Parce que ne croyez pas. Il y avait des halakhot à l'époque. C'était comme ça. Quand les gens, ils avaient des champs, tu avais toujours des gens qui étaient pauvres, qui venaient ramasser les restes, les machins, des petits trucs qui tombaient. C'était comme ça à l'époque. Donc, il y en avait plein des filles. Qu'est-ce qui a fait que Boaz, il a mis un œil sur Ruth ? C'est sa tzniout et sa chochma. Parce que, un, elle prenait que ce qui était autorisé. Parce que souvent, tu sais, quand tu es pauvre, quand tu es pauvre, tu peux avoir un truc de dire bah, de toute façon, j'ai pas, qu'est-ce que je peux faire ? D'accord ? Et tu t'autorises en réalité, d'accord ? Le vol et d'arnaquer, de faire. Parce que tu dis, bah, j'ai pas le choix, j'ai plus quoi manger, qu'est-ce que je peux faire ? Moi, une fois, je me souviens, il y a une personne, elle m'a dit, j'avais pas le choix, il fallait que je donne à manger à mes enfants. Bon, je juge pas, mais pour te dire que oui, c'est un comportement qui peut exister, d'accord ? Donc, elle, maintenant, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle ne prenait que ce qui était permis par la halakha, et ça il a regardé, et surtout son comportement. Il y a marqué que Ruth, comment elle ramassait ? Elle ramassait ou debout, elle prenait le haut des épis, ou alors elle s'agenouillait et elle ramassait ce qu'il y avait en bas. Comment faisaient les autres personnes ? D'accord ? Elle se baissait, elle se penchait. Et ça, c'est pas de sa noix. Même nous, d'accord ? On ne doit pas faire ça. Même quand des fois, tu sais, tu balayes ou quoi, tu balayes, des fois, tu prends la pelle, tu dois te plier, d'accord ? Même chez toi, à la maison, la tsniout, elle est importante. Tu te plies et tu ramasses, mais pas que tu te penches comme ça ou quoi. C'est parce que la tsniout, c'est pas quelque chose que tu peux acquérir. Ah, attends, là, il y a quelqu'un, je vais me tenir bien ou quoi. La tsniout, c'est quelque chose que tu dois travailler de chez toi et c'est ton intériorité que tu travailles. Donc, toujours, donc comment elle a été remarquée ? Par sa tsniout, d'accord ? Et de la bémet, là aussi, on peut regarder quelque chose de très grand. Parce que vous vous rendez compte qu'on apprend dans la Torah, on apprend la tsniout de qui ?
De Ruth.
De Ruth, une convertie.
De Rivka aussi, quand elle s'est baissée.
De Rivka, d'accord. Mais Ruth, ça veut dire aujourd'hui, quand tu veux parler. Elle est convertie. Ça y est, ça y est. Elle a, non, parce que c'est. À partir du moment, si, elle a fait la conversion, ça y est. À partir du moment où elle a pris sur elle, d'accord, de rentrer avec sa belle-mère, elle a pris sur elle le hall des mitzvot et tout ça, elle est devenue juive, d'accord. Maintenant, oui, c'est vrai que de Rivka, on apprend, mais en général, quand on veut te parler d'une tsniout, de qui on te parle? De Ruth. La tsniout de Ruth, elle est connue de partout, d'accord. De là, tu comprends quoi? D'abord, ne dénigre jamais la convertie. Parce que... Non, mais malgré tout, elle a le nom de Guilloret. D'accord ? Et même dans la Torah, on te dit, tu dois protéger le guerre, le guerre de Tzedek et tout ça. Ils ont cette appellation. D'accord ? Ne dénigre jamais une convertie. Surtout qu'on voit bien d'où est venu David Améler, d'où est sortie la royauté de Ruth. D'accord ? Et deuxièmement, tu pourrais dire, regarde, aujourd'hui, d'accord, c'est difficile de tenir la tsniout parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a la mode, parce que chacun il a ses bonnes excuses, d'accord. Elle aurait pu dire, je peux pas, tu comprends, faut que je me remarie, faut que je me monte, faut que je sois mignonne, faut que je sois fraîche, faut que ceci, faut que ça, je suis pauvre, je dois ramasser, j'ai pas le temps de faire attention à tous ces détails. Non, Ruth, elle a pas lâché. Ruth, elle a su rester, d'accord, ça veut dire elle a su être une femme juive digne de ce nom. Et la tsniout, c'est pas d'aujourd'hui. La tsniout, c'est le yetzer hara de la femme de tout temps. Tout le temps, d'accord, toujours la femme, elle a eu ce yetzer hara avec la tsniout. Parce que Béhémet, que c'est très important pour la femme d'avoir ce sentiment qu'elle plaît. C'est comme ça, c'est Hachem qui nous a créé comme ça. C'est le yetzer hara de la femme. Le yetzer hara de l'homme, d'accord ? Un des yetzer hara principaux de l'homme, c'est d'aller étudier la Torah. C'est très dur pour eux d'aller étudier la Torah. À chaque fois, ils vont te trouver une bonne excuse. Non, je peux pas, non, j'ai ça, machin. La femme, elle a toujours une bonne excuse pour pas être tsniout. Et ça, c'est son yetzer hara, d'accord ? Donc, on voit quoi ? Que là aussi, Béhémet, la grandeur de Ruth, c'est que justement, elle a su se préserver. Elle s'est pas fait embrouiller par l'influence extérieure. Et elle est restée droite et elle s'est comportée selon la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui l'a fait briller. C'est de là qu'on l'a remarqué. Alors Boaz, quand il a su que... Qu'est-ce qu'il lui a dit le serviteur ? Comme il savait qu'il avait perdu sa femme, alors il a dit, c'est Ruth, elle est venue avec Naomi. C'est Ruth la Moabite qui est venue avec Naomi. Du style, tu sais, sache que... Naomi, donc, comme tu le sais, elle a perdu ses enfants, elle a perdu, c'est sa belle-fille, regarde quelle belle-fille que c'est. Elle a tout abandonné, et en plus, elle s'occupe de sa belle-mère. Ça veut dire, là, on a voulu te montrer le trait de caractère de la personne. Et la Torah, Béhémet, elle s'est vraiment penchée là-dessus pour te montrer que souvent, nous, on veut faire des grandes choses. Souvent, on a l'impression que devenir quelqu'un de bien, c'est faire des grandes choses extérieures, faire du bruit. Et là, tu remarqueras, elle, sans faire de bruit, sans rien du tout, elle a montré Béhémet sa grandeur. Ça veut dire, elle, sans se, sans se montrer, sans rien, elle a fait son petit travail, elle a pris sur elle de s'occuper de sa belle-mère. Et Bémet, que ça, ça peut nous renforcer, parce que souvent, nous, on se dit, je ne pourrai jamais être une sadéquette, et je ne pourrai jamais faire les choses, parce qu'il faut que je prenne tellement de choses sur moi, ça me paraît tellement énorme, tu dis, je ne vais jamais y arriver. La Torah, elle te dit, regarde, si tu remarques bien, tout au long de l'histoire, sur quoi Kadosh Baruch Hu, il est très sensible ? Sur la bonté du cœur, sur la bienfaisance qu'une personne elle peut faire. C'est sur ça qu'Akadosh Baruch Hu, il est très sensible. C'est quand il sent que tu as un cœur. Et regardez aujourd'hui, nous, combien on lutte et combien c'est dur pour nous de faire les choses avec du cœur. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus Bémet, notre cœur, il est en train de se rendurcir, de devenir comme ça très, très, très dur. Et combien on doit prier, d'accord, pour avoir une sensation de ressentir un petit peu son cœur. Donc, Bémet, que ne vous laissez pas attraper par le Yetzer Hara qui souvent va vous faire croire que vous allez, on ne va jamais y arriver, on ne va jamais pouvoir arriver à un niveau de grande de tzadéquette ou quoi. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas des grandes choses à l'extérieur. Fais le bien autour de toi. Essaye d'aider ton prochain. Essaye de soutenir quelqu'un. Crois-moi que ça, Akadosh Baruch Hu, il a un œil particulier là-dessus. Donc, quand Boaz, il a vu que Naomi, que Ruth, Bémet, elle était là pour sa belle-mère, alors il a été la voir et il lui a dit, regarde, écoutez bien maintenant, il lui a dit, regarde, sache, ici, c'est comme chez toi. Quand tu as soif, rentre, désaltère-toi, mange, j'ai fait savoir aux gens de ma maison, personne ne te dira rien, prends ce que tu as besoin. Il dit à ses employés, il leur dit, laissez tomber plus de choses, d'épis et de machins, pour qu'elles puissent en rapporter plus. Alors il lui dit comme ça, et il lui dit, mais je te demande une chose, rappelez-vous, on a dit que Boaz, il représente le tzaddik. Et là, le tzaddik, qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, je te demande une chose, surtout, ne va pas dans un autre champ. Surtout, ne va pas t'attacher à d'autres. Parce que peut-être que les autres, ils vont peut-être te présenter des choses qui ont l'air plus belles, qui ont l'air plus attrayantes. Bonjour. Des choses qui ont l'air beaucoup plus intéressantes. Mais sache une chose, c'est que ce qu'ils te proposeront, ça ne sera pas ce que moi je peux te proposer. Chez moi, je te donnerai tout. Tout ce que tu désires, tu l'auras. Je te demande juste une chose, ne va pas voir ailleurs. Rappelez-vous bien cette phrase. Parce que quelque part, si vous, celles qui ont lu les textes, c'est un petit peu les recommandations que Rabbeinu, il nous donne. Rabbeinu, toujours, il nous dit, attache-toi bien fort à moi. Suis mes conseils. Tu arriveras au niveau d'Avodat Hashem que tu dois arriver, tu auras toutes tes yeshuot, ta réparation, je vais te la faire. Seulement, ne te laisse pas embrouiller. Commence pas à te dire, attends, je vais voir là, je vais voir là, je vais essayer là. Reste attaché aux principes et aux conseils que je te donne. Même si ça ne te paraît pas avoir, tu sais, des fois on veut, nous, surtout nous aujourd'hui, on veut des réponses immédiates, on veut des délivrances immédiates, mais c'est pas comme ça. La réparation, elle prend du temps. Et vous allez voir Teref, la réparation, combien de temps elle peut prendre. Alors il lui dit, surtout ne va pas voir ailleurs, reste chez moi. Et là, quand elle est rentrée chez elle, elle a raconté donc à Naomi, Ruth a raconté à Naomi la discussion qu'elle a eue avec Boaz. Et là, Naomi, qui depuis le début, d'accord, elle avait dans sa tête, elle avait prévu, elle lui a dit, bon, regarde maintenant ma fille, regarde ce que tu vas faire. Tu ne vas pas aller aujourd'hui ramasser les trucs, tu vas attendre la fin de la journée. Tu vas aller ramasser les épices qu'il faut. Et quand Boaz, qui dort dans son champ, il va se mettre dans son lit, qu'est-ce que tu vas faire toi ? Tu vas rentrer sous la couette avec lui.
Qu'est-ce
que
c'est
ça ? Naomi, la belle-mère.
C'était correct à l'époque, ça ?
Attends.
Sans être mariée, sans
rien. Sans être mariée, sans rien. Attends. Attends. Attendez. Regardez Estelle, elle attend.
Moi, je dis rien.
Elle dit plus rien. Estelle, elle attend.
Ah, j'attends.
Donc.
Qu'est-ce qu'ils vont nous trouver comme excuse, ceux-là ?
Je le sais, je la connais. Alors, elle lui dit, tu vas aller sous la couette de Boaz et tu vas lui parler. Tu vas attendre qu'il va se réveiller. Alors maintenant, elle, regarde la soumission qu'elle a devant sa belle-mère. Elle pourrait lui dire, mais attends, d'abord Boaz, il a 80 ans. C'est un vieux de la vieille. Tu veux que j'aille avec Boaz, moi qui a 40 ans, que je peux m'éclater?
Donc elle dit ça.
Elle lui dit pas. Ça veut dire...
C'est comme Estelle, elle le pense. Mais...
Elle le pense, elle se dit, attends, elle pourrait se dire, tu rigoles ou quoi? Mais rien. La soumission totale devant sa belle-mère, ça veut dire, elle discute même pas.
Elle lui fait confiance.
Elle lui fait une confiance totale. Alors, et on pourrait se dire, attends, une belle-mère, elle dit ça à sa belle-fille, elle n'est pas intéressée, est-ce que sa belle-fille aussi, elle se marie avec un autre? Elle pourrait dire, laisse-la près de moi, celle-là, c'est ma servante. Tous les jours, elle est fatiguée, Naomi. Elle n'a plus la force d'aller travailler ni rien du tout, donc elle a trouvé une qui va tous les jours, elle ramène à manger, elle lui ramène. On pourrait dire aussi, la belle-mère, elle n'est pas intéressée à la lâcher. Mais au contraire, Naomi, elle est tzadika. Elle lui dit, va sous la couette. Et il y a marqué comme ça que Boaz, au milieu de la nuit, donc à Hatsot, il se lève pour faire Hatsot. Et là, il sent qu'il y a quelque chose. Et il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et il dit, qu'est-ce que c'est? Qui c'est? T'imagines, il se réveille pour faire Hatsot, il voit une femme, il sent une femme dans son lit, il se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il vient de perdre sa femme, donc bon. Alors, il lui dit, qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Et elle lui dit, non, n'aie pas peur, c'est moi, c'est Ruth. Et donc, elle lui dit, je suis venue, ma belle-mère, elle m'a envoyée, parce que Ruth, elle voulait Bémet, d'accord, faire la mitzvah du liboum. Ça veut dire que, à partir du moment où elle est morte, son mari il est mort, bah, la mitzvah, c'était de prendre quelqu'un de la famille pour que justement on puisse après continuer la descendance. Alors elle lui fait comprendre qu'elle, en réalité, elle veut se marier. Elle voudrait se marier. Donc, non, Boaz, c'est un cousin. C'était un cousin de Elimelech, l'ex-mari de Naomi. Et c'est aussi un cousin à Naomi. Attends, tu vas voir l'histoire.
Les présenter sans la mettre dans son lit directement. Quand même.
C'est comme ça que c'est venu. C'est attends.
C'est direct.
Mais écoute une chose.
Non mais c'est parce qu'elle a pris un
signe. Il n'y a rien eu. Attends. Mais justement, vous, attendez la suite. Vous allez savoir maintenant pourquoi. Et les copines, vous allez comprendre maintenant pourquoi elle a été dans son lit. Attends, Biduk. Attends, on va y arriver. Alors en réalité, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Naomi, elle a dit à sa fille, elle a sa belle-fille, elle lui a dit, Ruth, tu vas aller sous la couette, mais vous allez rien faire.
Ouais.
Attends, pourquoi elle lui a dit ça? Eh bien, mettre que toute la nuit, ça a été la guerre. Toute la nuit, ça a été, parce que bon, lui, un homme, d'accord, c'est normal, c'est le sadique, mais bon, c'est une jeune femme. Et elle a fait maintenant, parce que Naomi, elle s'est dit, Ruth, elle doit faire le tikkun, la réparation, d'accord, de ce qui s'était passé avec son ancêtre Lot. Qu'est-ce qu'il avait fait Lot? Il a été avec sa fille, d'accord. Et Ruth, tout à l'heure c'était avec un chien, donc ouais, maintenant t'étais venu, t'as raté l'épisode du chien, on va écouter. Donc, en allant avec Boaz, en allant sous la couette, d'accord, de Boaz, et rester, ça veut dire les deux fermes, on bouge pas. Elle, Ruth, elle a fait cette réparation et elle a enlevé toutes les clipotes, elle a tout sanctifié, elle a tout réparé.
C'est qui
Lot? Lot, c'était le neveu de Avraham Avinu, d'accord? Qui c'était? C'était un ancêtre à Naomi, à Ruth. C'était un ancêtre à Ruth, justement. Ruth, pour pouvoir se marier avec Boaz. Ruth, pour pouvoir se marier avec Boaz. Il fallait qu'elle se détache totalement de toutes ces clipotes.
Ça pouvait être l'ancêtre de gens juifs puisqu'elle était née dans un pays.
Mais il y avait mais Lot, il y avait pas juif, pas juif à l'époque.
T'as dit que c'était le descendant ou le fils ou le cousin
de Avraham Avinu. D'accord. Avraham Avinu, c'était le premier juif. D'accord. C'était un des. Ils se sont séparés. Ils sont partis, se sont séparés et Lot, il a été quand il a Lot, il a été, il s'est mis, il a été avec sa fille, d'accord, avec ses deux filles. Non, ils n'ont pas eu Ruth, mais Ruth, c'est une descendante.
Mais
d'accord.
Ils pensaient que c'était la fin
donc,
du monde.
Donc, ils pensaient que c'était la fin du monde. À chaque fois, il y a des histoires, bien évidemment, ils n'ont pas été comme ça. C'était parce qu'ils pensaient véritablement que c'était la fin du monde et qu'il n'y aurait pas d'autres personnes. Alors, Jennifer, suis l'histoire parce que maintenant, ça devient important. Donc, Ruth, elle a fait la réparation de ce qui s'était passé avec l'autre. Les filles, vous remarquez un petit peu toutes ces histoires ? Vous remarquez que ce que je veux vous dire, regardez nos vies. Des fois, il nous arrive des choses terribles. Et toi, tu es concentré sur ta petite vie. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Mais sors ! Dis-toi, attends, tout ça, c'est des réparations. Tout ça, on ne comprend rien. Tu ne peux pas comprendre parce que regarde, Ruth, pourquoi elle a été sous la couette de Boaz qui était amenée avec son mari ? On va voir tes rêves. Qu'est-ce qui est sorti de là ? C'est qu'elle devait réparer cette histoire qu'il y avait d'abord avec Lot et ses filles. Donc, parce que elle, c'était parce que c'était venu le moment où elle pouvait faire des réparations. Je vais vous expliquer une chose. Hein? C'est Naomi qui savait ça. Donc Naomi, elle avait déjà tout préparé, d'accord. Ce que vous devez comprendre, c'est que des fois, on veut réparer des choses, et puis ça vient pas. Parce que regarde, il faut des générations, il faut des choses. C'est pas comme ça. Les réparations, c'est Akadosh Baruch Hu qui les fait. C'est le Tzadik qui s'occupe de toutes les réparations. D'accord ? Donc toi, tu dois juste essayer à chaque fois de rechercher, d'accord ? Qu'est-ce qu'Hachem, il veut de toi ? Et toujours là où tu es, en haut ou en bas, attache-toi à Hachem. Ne lâche pas Akadosh Baruch Hu. Donc le matin, au petit matin, qu'ils n'ont rien fait, Boaz, il a dit, bon, écoute, regarde, je vais te marier. Mais il faut que tu saches une chose. Je vais t'épouser. Mais je veux que tu saches une chose. Avant moi, il y a quelqu'un d'autre de la famille qui est plus proche encore. Lui, peut-être que je vais lui donner d'abord la priorité parce que c'est lui. Elle, maintenant, elle dit d'accord. C'est-à-dire, vous remarquez le truc, c'est pas elle se dit mais non, je veux toi. Elle dit tout d'accord.
Peut-être il est plus jeune.
Il a fait. Regarde. Il est plus jeune. Il est plus beau. Et il a plus d'argent. Et vous vous rappelez ce qu'il lui avait dit au début, Boaz ? T'éloigne pas. Va pas ailleurs. Parce que tu sais, des fois, plus beau, plus jeune, plus fringant, tout ça, c'est du bidon. Tout ça, c'est pas du Emmet. Ça, c'est pour t'appâter, c'est pour t'allécher. Et elle, quand elle lui a dit « D'accord », Boaz, il a eu un coup au cœur quand même. Parce qu'il l'avait prévenu déjà. Mais Boaz, c'est le tzadik, il a dit « Très bien ». Donc, il a fait venir... Il y a eu le cousin qui est arrivé, d'accord, qui s'appelait Tov, et il lui a dit voilà.
Naomi, elle était d'accord,
elle s'attendait. Donc Naomi, elle a dit à sa fille Ruth, elle lui a dit regarde, à sa belle-fille, elle lui a dit regarde, toi tu vas te préparer. Ce qui est sûr, c'est que ce soir tu te maries. Donc elle lui a dit tu vas te préparer. Et on verra. Elle sait pas avec qui, mais elle lui a dit ce soir tu te prépares. Maintenant Naomi, elle savait déjà parce qu'elle avait Ruach HaKodesh. Donc elle lui dit, tu te prépares pour ce soir. Et Ruth, elle suit, pas de problème. Elle se prépare pour le soir, tout bien, comme il faut. Alors Boaz, il fait venir donc les autres juges de la ville et leur dit, voilà, il y a maintenant Ruth, la belle-fille de Naomi, qui doit se marier et on a la mitzvah de faire le liboum. Toi, Tov, qui s'appelait le cousin, tu as d'abord la préséance, donc est-ce que tu veux la prendre ? Alors l'autre, il lui dit, d'accord, je vais la prendre. Deuxième coup de poignard pour Boaz. Et Boaz, il lui dit, mais attention, si tu la prends, il faut que tu saches. Il faudra la nourrir, il faudra t'occuper de tout, il faudra tout faire. C'est-à-dire, tu vas devoir donner.
C'est un radin.
Et là,
Alors là,
il lui a dit, ah non. Parce que l'autre, il croyait qu'il allait la prendre, tu vois, genre, j'ai rien à faire. Alors il lui dit, non, tu sais quoi ? J'ai pas les moyens de la prendre. Je vais pas avoir les moyens de la prendre. Je vais pas pouvoir. Alors, je te la laisse. Et donc, Boaz, il se marie le soir avec Ruth. La noce se passe. Et là, ils se retrouvent. Et... bien évidemment, ils se marient, ils sont ensemble, ils font la mitzvah. Le lendemain matin, bon, la suite au prochain cours. Le lendemain matin, Boaz, il meurt. 80 ans.
Il était vieux.
Avec une de 40 ans, c'est normal. Ouais, ouais, ouais.
Toute l'union. Le lendemain. Le lendemain, Boaz y meurt. Ça veut dire qu'il y a eu une union entre le tzaddik et Ruth. Et tout ça.
Le mari, la belle-mère, le nouveau mari.
Toute cette union. Cindy, toute cette union, c'était pourquoi? De qui elle était? Qu'est-ce qu'elle a emmené? Elle est tombée enceinte, donc ce soir-là. Pas de David Améler. Attendez tout de suite, 2 minutes. Elle a eu Oved. C'est Oved qui est né. Elle a eu Oved. Et Oved, d'accord, il a eu un fils. Comment il s'appelait le fils d'Oved? Vous vous rappelez, la semaine dernière, on en a parlé un petit peu. Ishaï. Vous vous rappelez, Ishaï, l'homme qui n'a jamais fauté? Et Ishaï, c'est un beau nom. Ouais. Si, il y a des gens qui s'appellent Boaz, bien sûr, chez les Israéliens, pas chez les Français, ouais. Ishaï, c'est un joli nom. C'est un tzaddik, chez les Israéliens, il y a Boaz. Ah ouais, tu vois. Donc, de cette union entre le tzaddik et Ruth, d'accord, regardez comment les choses, elles ont été faites. Ça veut dire que le tzaddik, qui représente toute la Torah, avec qui il s'est allié? Avec une personne qui a du cœur. Avec une personne, d'accord, qui était bonne pour les autres. C'est encore une fois, et qui a su s'annuler. C'est-à-dire que quand tu t'annules, regarde, elle a une vie, la vérité. Comme tu dis, premier mari, deuxième mari, bon, dans quelles conditions quand même? Le jour même tu te maries, tu ne sais pas à qui tu te maries. Et tu te dis, entre nous, hein, c'est le jeune ou le moins jeune? Ça veut dire, tu ne sais pas trop quoi, comment ça va se passer. Annulation totale par amour pour Hachem. Et donc, née de cette union, Ishaï. Midi. Ah, maintenant, là, tout de suite. À midi, on finit.
Si c'est possible, maintenant.
Je termine l'histoire, un petit instant. Donc. Mais où? Ah, d'accord, ok. D'accord, un instant. D'accord, un instant. Donc, Oved, il a eu Ishaï, l'homme qui n'a jamais fauté. Et Ishaï, à la fin de sa vie, d'accord, il a eu David. Ça veut dire que toute cette histoire, les copines, regardez, toute cette histoire de Elimelech qui est parti, de Naomi qui a s'est complètement annulé à son mari, regardez où est-ce que ça nous emmène. David Améler, c'est la royauté. De David Améler va naître Mashiach. Il n'y aurait pas eu Mashiach. On va y arriver. Il n'y aurait pas eu Mashiach s'il n'y avait pas eu cette histoire. Il va arriver, si tu veux, aujourd'hui même. Attends. Et là, tu fais une bonne truc. Maintenant, si tu regardes bien, David Améler, un petit mot sur David Améler, parce que vous savez que David Améler, il est né et il est mort le jour de Shavuot. Ça veut dire que c'était en réalité David Améler, si maintenant on revient, c'était le cousin de Goliath. Puisque Orpa, d'accord, Orpa et Ruth, c'était des belles-sœurs.
C'est des belles-sœurs, elles sont mariées avec deux frères.
Donc, oui, d'accord, mais c'était, ça veut dire des cousins. C'était. Non, mais ça veut dire que malgré tout, il y avait un lien, parce que c'était des anciennes belles-sœurs. D'accord, elles n'étaient pas sœurs, c'était des anciennes belles-sœurs. Non, c'est pas la même génération. Non, mais parce qu'avant, ils vivaient beaucoup plus longtemps. Donc, maintenant, il faut savoir une chose. David Améler, les copines, David Améler, d'accord, que le jour de Shavuot, c'est le jour où il est né, le jour où il est mort, il faudra allumer un air pour David Améler. Maintenant, il faut savoir, David Améler, oui, La naissance de David à Meller, aussi elle est particulière. Ishaï, à la fin de sa vie, que c'est un homme qui n'a jamais fauté, il a eu peut-être un doute. On dit que le Yetzer Hara, il a attaqué à la fin de sa vie. Et il a commencé à lui dire, mais tu sais Ishaï, toi en réalité, mais tu es descendant de Ruth la Moabite. Si ça se trouve, Boaz, il a manigancé, il a fait une combine pour se marier avec elle. Si ça se trouve, toi, t'es pas juif. Ishaï, il s'est fait attraper par le Yetzer Hara à la fin de sa vie. Encore une fois, ne crois pas en toi jusqu'à la fin de tes jours et regarde comment, même en fin de vie, le Yetzer Hara, il t'attrape. Et il veut pas te lâcher. Donc, il a eu des petits doutes sur lui-même et il s'est dit, je ne suis pas apte à rester marié avec ma femme. J'ai oublié son nom. Non, elle était importante, Razvi Shalom. Attends, elle a ramené six fils. Ils étaient tous des tzadikim.
Bah si, c'est la mère de David Ameller.
Oui, on te parle de la mère de David Ameller, bien sûr. Elle a ramené six fils, déjà à l'époque, quand ça s'est passé, qui étaient tous des tzadikim. Alors, je ne veux pas te dire des mauvaises paroles, je ne sais plus. Écoute, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est séparé de sa femme. Et il lui a dit, je ne veux plus être avec toi, je me sépare de toi parce que j'ai des doutes.
Ils ont divorcé.
Ils n'ont pas divorcé encore. Ils se sont séparés. Et il a été avec son... Il a été... Nitzevet Batadiel, Kolakavod. Et donc il a été... Audrey, c'est vrai, toujours Audrey, tu as vu? Première de la classe, vraiment. Et donc il a été avec sa servante. Il a dit, je vais prendre ma servante puisque elle, c'est une comme moi, elle n'est pas juive. Alors, il s'est séparé. Vous n'avez pas lu des fois déjà dans le Tehilim, David Ameller qui dit, moi qui suis né d'une union interdite, ça vous est jamais vous avez dit? Il n'a pas fauté. Attends, regarde, comment tu vas aller vite? Attends.
C'est quand? Un doute sur la mère de David Ameller.
Donc David Ameller, justement, c'était un fils de rien. Écoute, mais attendez, les copines. Vous n'allez pas. Attendez, la suite, elle est de folie. Donc, Ishaï, il a dit, moi, je vais prendre ma servante et il lui a dit, je vais me marier avec toi. Maintenant, la servante, qui était très attachée à la femme, à Nitzevet, le soir où elle devait aller avec Ishaï, elle lui a dit, écoute, moi, je sais que c'est n'importe quoi, toute cette histoire. On va faire comme il y a eu entre Léa et Rachel. On va échanger les places. C'était dans le noir, donc on ne voyait rien, Estelle. On va échanger les places. Et donc, à la place de la servante, c'était sa femme qui a été avec lui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là?
Spectacle, j'ai pas bossé pour lui. C'est lui qui a voulu avec la servante. C'est
oui,
pas la servante.
Mais la servante, elle a pas voulu. Elle a dit, c'est ton mari, tu le gardes. Donc,
de cette union-là,
d'accord, fais des pigeons. De cette union-là, maintenant lui, il sait pas. Il croit qu'il est avec sa servante.
Il a pas reconnu sa femme.
Mais comment? On est dans le noir. C'est noir opaque.
Par son corps.
Il n'y a rien. Tu comprends pas que c'est de la Kdoucha. Ils ne sont pas à notre niveau. Ils ne sont pas à notre niveau. Écoute-moi. Il se va avec sa femme. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe enceinte. Mais est-ce que tu te rends compte la catastrophe? Elle a été, elle s'est séparée de son mari. Comment elle tombe enceinte? Ça veut dire que pitom, tout le monde parle sur elle.
Elle lui a fait un enfant dans le dos quand même.
Mais non, c'est ça qu'on dit. Ça veut dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde, même les fils, ils disent, attends, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était avec un autre homme, notre mère? Elle a rien dit. Elle lui a dit, on se tait. Et elle a porté, écoute bien, Et elle a porté comme ça, je termine, hein, 2 minutes.
Mais à chaque fois, elle aura remplacé.
Une fois, c'est comme Orpa. Une fois, ça suffit.
Mais lui, il a vécu après, il ne chérit personne.
Après, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est qu'il y a eu un enfant.
C'est la porte ouverte.
Alors, attends. Donc, elle est tombée enceinte. Il est resté avec la servante, apparemment. Donc, elle s'est retrouvée enceinte. Et donc, la honte sur elle. Tout le monde qui parle, regarde ce qu'elle a fait. Et donc, David Ameller est né. Et donc, tout le monde l'a mis de côté, David Ameller. Tout le monde l'a mis de côté. Ça veut dire qu'il était... Pour l'instant, il fallait qu'elle se taise. Et donc, il a été mis de côté. Et David Ameller, il s'est occupé... Il est devenu un berger. Il s'est occupé du troupeau de son père. Personne ne le regardait. Il était vraiment traité comme... Par son père, Ishaï, bien sûr. Et il est traité comme le rien.
Hein?
Oui, c'était son père, mais c'était la honte de la famille.
Ça,
d'accord. Ils n'ont pas divorcé, donc c'est comme ça. Ils ont dit, bon, on ne va pas faire la honte sur toute la famille. On va le mettre de côté. On va faire en sorte qu'on va l'oublier. Il va être dans les terrains loin. Et on voit que David Ameller, toute sa vie, il a développé justement cette bonté, cette générosité, comment il s'occupait du troupeau. Comment il faisait attention que le troupeau, c'était d'abord les petites bêtes qui allaient brouter en premier, après celles qui avaient plus de force, qui allaient après. Mamash, et on voit que Akadosh Baruch Hu Bemet, d'accord, encore une fois, il a été sensible, d'accord, il a été sensible à cet état et à cette nature de bonté. Il a dit, regarde, si Akadosh Baruch Hu, si Bemet, David Ameler, il se soucie des petites brebis, et il fait attention au troupeau, et il laisse pas. Ça veut dire que c'est lui en réalité qui est apte à diriger mon peuple. Et c'est comme ça, hein, comment on y est arrivé? Parce que à l'époque, maintenant, quand on avance avec le temps, qui était le roi d'Israël? C'était Shaoul. Mais Shaoul, à un moment donné, à Kadosh Baruch Hu, il a dit, je vais le destituer. Et donc il a dit à Shmuel, il lui a dit, qui était le Navi, qui était le prophète, il lui a dit, toi Shmuel, tu vas aller chez David Ameller et tu vas l'instituer comme étant le roi. Mais David Ameller, il n'a pas voulu faire du mal. Donc lui, il est resté dans ses trucs. C'est-à-dire, il savait qu'il allait être le roi, qu'il était le roi, mais il restait à sa place. Il ne voulait même pas mettre l'habit royal.
On a passé quelque chose là, entre le fait.
Attends. Non. Et donc, il y a eu justement... Attends, tu parles de Goliath.
Non, comment ça s'est fait là,
Il était jeté dans les prés. Il était. Et à Kadosh Baruch Hu, justement, c'est ce que je te dis. Il a vu la grandeur d'âme de David Ameller. Et il a dit, si cet homme.
Oui, les brebis, tout ça, mais au niveau de l'œil du public.
Ça restait toujours. Il était toujours le pauvre petit. Et à un moment donné, justement. D'accord, Shmuel. Il est venu et il a rétabli la vérité. Ah, et c'est là où la mère, elle a dit oui, je me suis substituée à la servante. La servante, elle a dit oui, en effet. Et c'est là où Bémet... Hein? Non, Shmuel, c'était le Navi, c'était le prophète de l'époque. C'était le prophète. C'était un prophète, d'accord, qui était connu et reconnu, Shmuel à Navi, que c'était sa Iloula il y a quelques jours. Donc, il a... La vérité, elle a été instituée. Ça y est, maintenant, on sait que c'est son enfant. Il chahissait. Donc, sa femme arrêta à récupérer sa place. Tout s'est remis. Et donc, quand Kadosh Baruch Hu, il a vu la bonté d'âme et de cœur de David, il a dit, ça, c'est lui qui est apte à diriger mon peuple. Maintenant, David Ameller, David, qui était tout petit, qui était un rien, d'accord, quand il a entendu qu'il y avait Goliath, justement, le Philistin, qui était en train de vouloir faire des tsarotes, des problèmes, d'accord, au peuple. Alors, et on cherchait qui c'est. Goliath, il était là, et il a dit, on était voisins, on dit que c'est après la mer morte, Moab. Et donc, il a dit, moi je veux anéantir le peuple. Il a dit, trouvez quelqu'un qui est capable de venir se battre contre moi. personne n'osait, bien évidemment. Goliath, le géant, fort comme je ne sais pas quoi. Qui c'est qui va oser? Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il a donné un koach, et comme un ruach de force, un ruach HaKodesh à David Ameler. Et David Ameler, quand il a entendu tout ça, il a dit, moi je vais venir et moi je vais combattre Goliath. Et on connaît toute l'histoire. Akadosh Baruch Hu, il a fait que quand David il est venu, avec son petit... comment on appelle ça ? Son lance-pierre, d'accord ? Il a lancé la pierre, c'est arrivé juste entre les yeux de Goliath. Il a coupé la tête de Goliath et il a apporté la tête, d'accord, de Goliath à Shaul HaMelech. Et c'est là où Shaul HaMelech, doucement, doucement, il a pris conscience que David, il allait justement devenir le roi. Mais encore une fois, David HaMelech, qui ne voulait pas faire de la peine, les choses, elles se sont faites, tu vois, doucement, doucement. C'est-à-dire qu'il n'a pas mis l'habit royal, il n'a pas fait tout ça. D'accord ? Et de là, Bémet, on voit quoi ? Que, regardez, comment Akadosh Baruch Hu, il a fait les choses d'une histoire qui vous paraît être terrible. Comment Akadosh Baruch Hu, chaque événement de la vie, chaque situation, en réalité, elle a son importance et elle a une raison. Donc, ce que je veux vous demander, c'est pour ça que je vous ai dit au début, on va recevoir la Torah Bezrat Hashem, Motzei Shabbat, ça va être Shavuot. Si Bémet, vous voulez recevoir la Torah et ressembler à des anges, samedi soir. Si Bémet, vous voulez recevoir la Torah et ressembler à des anges, arrêtez de vous appesantir et de vous prendre la tête avec vos petites histoires. Parce que toutes vos petites histoires, c'est l'avènement du Mashiach. Toutes vos petites histoires qui vous bloquent dans votre vie, qui vous angoissent, qui vous font peur et qui vous font croire que vous êtes des personnes affreuses, tout ça, en réalité, ça fait partie de l'avènement du Mashiach. Donc, essayez de vous élever, de ne pas rester bloqué sur des choses qui n'en valent pas la peine. Et dites-vous, tu sais quoi ? Moi, Bezrat Hashem, je vais recevoir la Torah en étant Béhémet, quelqu'un de plus grand. Je vais comprendre qu'il y a un Dieu sur terre et que tout ce qui m'est arrivé, toutes mes petites histoires, d'accord ? Vous vous rappelez, Elimelech, il est parti parce qu'il a été un rat, il n'a pas voulu donner. On pourrait dire, quoi ? Ben oui, parce qu'il fallait qu'il y ait toutes ces histoires pour qu'il y ait Ruth la Moabite, parce qu'il fallait qu'il y ait Mashiach, parce qu'il fallait qu'il y ait David Améler. Donc des histoires tordues, qui nous paraissent être tordues, en réalité, c'est que des bénédictions. Même si tu n'as pas les yeux pour voir, même si aujourd'hui ça te paraît être une histoire affreuse, rappelle-toi une chose. Akadosh Baruch Hu, il est derrière chaque petite histoire. Akadosh Baruch Hu, il est derrière chaque petit événement et chaque petit détail. Et que ta vie, en réalité, ta vie, c'est l'avènement du Mashiach. Chacune de nous, notre vie, c'est ça qui va amener Mashiach. Parce que chaque instant où tu as une histoire et que tu restes accroché à Kadosh Baruch Hu, c'est cette accroche-là qui fait que, hop, on avance encore un peu et encore un peu. Que Bezrat Hashem, cette belle histoire qu'on a racontée, elle nous donne de la Emouna, parce que tout ça, c'était pourquoi ? Pour nous rentrer de la Emouna. Quelle Emouna ? Que notre vie, c'est pas une vie stam. Que nos histoires, quelles qu'elles soient, c'est pas des histoires stam. Et que toutes les personnes qu'on a, qui ont été sur notre passage, toutes les personnes qui sont autour de nous, c'est pas des personnes stam. C'est tout ça, c'est des rencontres qu'Hachem y fait, c'est des histoires qu'Akadosh Baruch Hu crée pour que Bezrat Hashem, on puisse arriver au moment du matin de Torah, au moment où Bezrat Hashem, on va pouvoir vivre nos délivrances chacune, que ce soit au niveau personnel et au niveau Bezrat Hashem du Kéal Israël. Amen, Kenyeratson.